repenser à cette direction, effectivement, cet accompagnement, cette fidélité de Dieu dans la marche avec lui en Jésus-Christ. Et nous allons aujourd'hui aborder une étape dans la vie des disciples, dans la vie des apôtres, qui n'est pas au mieux de sa forme. Les disciples, on a du mal à savoir si c'est seulement les 12 ou si c'est les 12 plus, j'allais dire, la famille élargie. En tout cas, nous sommes vraisemblablement dans la troisième année du ministère de Jésus. Il est quelque part en Galilée et il a répété au moins trois fois, en tout cas il y a trois passages très clairs dans les quatre évangiles, où Jésus explique l'avenir. Il dit, écoutez, je m'en vais à Jérusalem, on va me traduire en justice, on va me condamner et je vais être mis à mort, crucifié. Et jusqu'ici, ils arrivent un peu à comprendre sans doute, et après il dit, je ressusciterai le troisième jour. Et il est dit ici ou là que les disciples ne comprennent rien. En tout cas, peut-être au premier niveau, c'est-à-dire dans le sens des paroles, dans le sens de ce qui va se passer. Mais ils comprennent en tout cas que quelque chose va se passer. Et le premier signe qui nous permet de sentir un peu cet esprit qu'on pourrait appeler un esprit de trouble, ça se trouve dans Jean chapitre 11, on va picorer un petit peu ici ou là, puis ensuite on s'arrêtera un peu plus dans Jean chapitre 14. Mais là on va au verset 6, c'est une curieuse remarque qui est un peu à côté du récit. C'est le récit où Jésus a appris la nouvelle de la maladie de Lazare, puis de sa mort, et il reste pourtant loin de Béthanie, et... on entend à ce moment-là un des disciples dire cette exclamation curieuse. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, ce n'est pas l'incrédule de service, mais c'est un autre Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples, avant que je dise ça, je n'ai pas bien dessiné le contexte, Jésus, à un moment donné, il dit « Allons-y ». On va voir Lazare, on va voir la famille, alors qu'il est mort. Et Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour que nous mourions avec lui. Bon. » Il est allé chercher ça où ? C'est un peu curieux, je n'ai jamais entendu de prédication là-dessus, et je ne vais pas en commencer une non plus, parce que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est peut-être la première indication que l'atmosphère n'est pas, l'ambiance n'est pas très réjouissante pour les disciples. Ensuite, il y a une série d'affirmations, d'interactions entre Jésus et les disciples, les apôtres, qui nous indiquent que l'ambiance est lourde. On pense, par exemple, je pense au verset 1 de Jean 14, « Que votre cœur ne se trouble pas. » Si Jésus dit ça, c'est que leur cœur se trouble. Donc il y a quelque chose qui va monter là, dans ce contexte de la fin du ministère de Jésus. Un peu plus loin, au chapitre 14, toujours, après que Jésus ait expliqué là où il va aller, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Donc Thomas exprime l'idée qu'il est perdu. Il est perdu, nous on a parlé de guide, de choix d'un bon guide pour aller où... Mais là c'est là. Le maître, le Seigneur qui les a dirigés pendant trois ans, provoque d'une certaine manière chez ceux qui l'écoutent, il dit « Mais écoute, de quoi tu parles? Nous ne savons pas où tu vas. C'est noir devant nous. Et on n'en sait même pas le chemin. » Un peu plus loin, Philippe essaye aussi à sa manière de l'exprimer, peut-être d'une manière un peu moins anxieuse, mais Philippe dit au verset 8 du même chapitre, « Seigneur, montre-nous le Père. » Il a envie de toucher et de voir Dieu dans une communion intime, un peu comme Moïse. « Et si tu nous montres le Père, ça suffira. On sera apaisés. » Et là, Jésus lui dit, mais ça fait tellement longtemps que je suis avec vous. Voilà. Donc c'est des échanges comme ça qui désignent, qui décrivent une situation bien difficile pour les disciples. Au verset 27, Jésus répète « Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. » Alors la lâcheté, c'est moralement très chargé. Peut-être dans une autre Bible, il y a quelle traduction ? C'est la même chose. Hein. À la défaite. Donc le mot est fort. On sent encore une fois que il y a là une ambiance dans la troupe qui n'est pas au mieux. Jean chapitre 16, au versets 5 et 6. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Donc toujours cette idée hein, de préparer au départ du Christ. Maintenant, je m'en vais. Ils n'entendent d'ailleurs peut-être que ça, les disciples. Je m'en vais. Ah, ça fait que 3 ans. Je m'en vais. Et aucun d'entre vous ne me demande où vas-tu. C'est parce que je vous ai parlé ainsi, pardon, mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Le désarroi, la tristesse, les ténèbres, la peur, la crainte, l'incompréhension. C'est une ambiance lourde, très lourde. Et en Jean 16, on peut résumer la situation avec cette parole d'un des disciples au verset 16, chapitre 16, versets 16 à 18. Jésus dit, « Encore un peu, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu, et vous me verrez. » Quelques-uns de ses disciples se dirent donc les uns aux autres, « Qu'est-ce qu'il nous dit là ? Encore un peu, vous ne me verrez plus, puis encore un peu, vous me verrez, et puis je m'en vais vers le Père. » Il disait donc, « Que dit-il là, un peu ?» Nous ne savons pas de quoi il parle. Ouf. Jésus est en train de préparer les disciples à l'après-Jésus. Alors, ça semble comme une hérésie hein, de dire l'après-Jésus. Est-ce qu'il existe quelque chose comme après-Jésus-Christ ? Plus précisément, l'après-Jésus-Christ qui chemine physiquement avec une troupe, avec un groupe, avec des disciples. Cette phase-là va se terminer. Jésus les prépare et à la place dans ses disciples, dans ses apôtres, il y a un esprit d'abandon qui s'est installé. Un fort esprit d'abandon. On pourrait l'appeler un esprit d'orphelin. Ils ont peur d'être laissés seuls. Et là, on se rend compte quand même que, à l'appel du Christ, les disciples ont vraiment tout lâché. Puisqu'au moment où ils vont perdre leur maître, c'est ce qu'ils comprennent avec leur vue limitée du moment, ils se disent, mais c'est la fin, tout s'écroule. Alors, quelle disposition Jésus va prendre pour assurer son après-ministère terrestre. Qu'est-ce qu'il va mettre en place, très, très concrètement ? Il va répondre à l'inquiétude des disciples, y répondre d'une manière très forte, d'une manière très claire, qu'ils ne vont peut-être pas comprendre en toute sa mesure maintenant, mais ils le comprendront un peu plus tard. Et nous, grâce à eux, nous pouvons le comprendre pleinement. On va essayer. Jésus va mettre en place une disposition en particulier. Est-ce que vous avez une petite idée de laquelle cela pourrait être ? Quelles seraient les options devant lui ? Mettez-vous un petit peu à la place de Jésus, toute proportion gardée. Vous avez une troupe de disciples et voilà, il va se passer ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme réconfort ? Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Voilà, je vais préparer ce moment. Alors j'ai pensé à deux ou trois choses, peut-être vous pourrez compléter si vous en avez une autre. Il aurait pu dire peut-être cette parole à la fois généreuse et consolante et à la fois un peu maladroite que l'on entend dans des obsèques et qui disent ben, « il est toujours avec nous » ou « la personne qui nous a quittés est toujours avec nous ». En fait, tout le monde sait qu'en fait, elle n'est plus là. Et c'est bien pour ça qu'on est triste. Alors on se console avec ce qu'on trouve sous la main et ça donne cette affirmation qu'on entend ici ou là. Il aurait pu dire ça. Moi, je vais rester là. Je serai avec vous, comme une phrase un peu vague. L'autre disposition qu'il aurait pu prendre, c'est de se dire « Je m'en vais, j'assume mon départ, mais vous avez été formés, vous allez trouver dans votre groupe et dans vos personnes les ressources pour la suite. » Donc il va transférer en quelque sorte la responsabilité de mener une vie de disciple, une vie de chrétien, sur les personnes elles-mêmes. Voilà, bah, écoutez, maintenant soyez grands, debout. C'est une option. Quelle disposition va-t-il prendre ? Tout le monde est au clair, il va y avoir un clash, il va y avoir quelque chose. Et il ne sera plus là, il a dit. Alors il aurait pu aussi dire à la troupe, là je suis un peu taquin, ben écoutez, vous allez élire au milieu d'entre vous un chef qui va me représenter. Il va transmettre en quelque sorte le leadership à quelqu'un d'autre. Et il est arrivé dans l'histoire de l'Église qu'il y ait eu ce genre de disposition de prise, avec les succès que l'on peut imaginer. Comment un être humain, même un disciple consacré, peut remplacer sur terre le Christ ? Impossible. Voilà les trois options que j'ai vues, quelqu'un en a une autre. Qu'est-ce que Jésus aurait pu prendre comme disposition ? On va tout doucement entrer dans l'explication de ce qu'il a mis en place pour la suite. Je vous propose une petite phrase dans Jean chapitre 14, sauf erreur de ma part, au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Alors, on n'est pas encore dans la disposition dans son entier. Donc ne trichez pas, ne lisez pas avant ou après, on va y venir. Mais cette phrase est forte quand même. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Ah. C'est le mot orphelin qui m'intéresse là. Parce que, souvenons-nous, c'est Jésus qui est allé demander à Matthieu, alors que Matthieu encaissait les impôts, ou c'est bien Matthieu, il lui dit, lève-toi, viens, suis-moi. C'est Jésus qui est allé voir des pêcheurs et qui leur a dit, Jean, Marc, venez, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est lui qui assume l'appel. Et cet appel a conduit à une réaction étonnante, c'est qu'ils ont suivi. Et ils ont tout laissé. À ce point qu'à un moment, la question se pose d'ailleurs. Je crois que c'est Pierre qui dit, mais nous qui avons tout laissé pour te suivre. Donc l'appel est fort. Il est très concret, ils ont abandonné physiquement leur vie d'avant pour suivre Jésus. Donc en quelque sorte, Jésus les a adoptés. Il a pris une position de conducteur, de maître et de seigneur. Et il ne s'en cache pas, il le dit. Donc s'il part, il laisse les disciples comme des orphelins. Autrement dit, la relation qu'il s'est construite entre Jésus et ses disciples, c'est bien une relation familiale, une relation très forte. Et si cette relation s'arrête, cela va laisser des orphelins sur le bord de la route. Voilà l'intensité de la situation. Et Jésus leur affirme, non, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. Il est temps maintenant de voir la totalité du passage qui nous intéresse, de Jean chapitre 14, versets 15 à 20. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Alors, est-ce que la disposition que Jésus prend apparaît clairement? Ce n'est pas des encouragements terrestres, j'allais dire, c'est l'envoi de Dieu, le Saint-Esprit. Vous savez qu'il est établi dans les Écritures que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et voilà que Jésus annonce, moi, le Fils, je demande au Père de vous donner l'Esprit. Mais là, dans le verset 16, il est dit, un autre défenseur. Alors, c'est traduit par défenseur, mais c'est un mot grec, on pourrait dire polysémique, avec beaucoup de sens et beaucoup de contenu. Ça se dit paraclète, parakletos en grec. Ça se traduit défenseur dans cette Bible. Ça peut se traduire comme consolateur. D'autres Bibles développent en disant quelqu'un d'autre qui vous soit en aide ou quelqu'un d'autre qui vous vienne en aide. Il semble que dans la société grecque de l'époque, un paraclétos, c'était beaucoup de choses à la fois. Avant tout, quelqu'un qui se pose entre vous et la loi, ou entre vous et l'administratif, ou l'administration, on va dire. C'est-à-dire, il va prendre en charge, à votre place, tout ce qui est d'ordre légal, administratif, contentieux, etc. Un sort d'avocat, il est traduit comme tel, un avocat. Voilà la disposition. Le Christ affirme clairement, j'envoie une personne. Elle sera au milieu de vous et elle sera en vous. Et cette personne, qui est Dieu lui-même, va vous accompagner. Vous le connaissez, il demeure auprès de vous et il sera en vous. Cette autre aide, ce paraclète, va prendre une importance de plus en plus grande dans la vie de l'Église. À ce point qu'il y a quelques autres passages qui peuvent nous aider à développer cette disposition de Jésus. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. » Voyons un de ces deux textes dans Romains chapitre 8, verset 15. Romains 8, verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, si s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Bon, là, il y a plusieurs prédications possibles. On va en rester au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Voilà Paul qui réaffirme, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être dans la crainte. Souvenez-vous de la disposition des disciples qui imaginent être laissés à eux-mêmes. Vous n'avez pas un esprit qui vous ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale. L'esprit d'adoption filiale, l'esprit qui témoigne à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. Et cet esprit, c'est Dieu lui-même. C'est la personne de ce qu'on appelle la Trinité, qui n'est pas un mot que l'on trouve dans la Bible, qui est une manière d'exprimer le fait qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. Voilà, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, et par cet esprit, nous nous exprimons Abba, qui est l'araméen du mot papa, et Père, qui est le mot grec, enfin dans l'original, hein, dans la Bible grecque. Et il y a les deux mots pour bien souligner ce cri qui vient du cœur. Alors là, il faut encore bien préciser que dans ce texte, on pourrait dire, en lisant un esprit d'esclavage, un esprit qui nous ramène à la crainte, on pourrait avoir l'impression qu'on parle d'une mentalité, d'une sorte, d'une personnalité ou d'un caractère. Je m'explique. Quand vous pensez à une personne qui essaie toujours d'arrondir les angles et de faire que tout le monde soit d'accord, vous dites, ah, lui, il a un esprit de conciliation. Ou inversement, quand vous voyez une personne qui est toujours chipoteuse ou alors grognon, vous dites, ah, il a un esprit chafouin. Pour dire tout simplement, il a un caractère chafouin. Ou sa disposition intérieure, c'est sa mentalité, c'est sa façon d'être. Et là, dans ce verset, en lisant « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage », on pourrait penser à ça. Mais ce n'est pas le sens du verset. Le verset parle d'une personne. L'esprit qui habite en vous, qui est l'esprit que je vous ai envoyé, et dont l'inauguration historique, en quelque sorte, s'est produite à la Pentecôte, ce don de l'esprit qui habite chaque croyant, cet esprit n'est pas un esprit qui va vous placer dans la crainte, dans un sentiment d'orphelin. Il va témoigner à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, avec ce qui va avec l'esprit d'adoption, l'héritage, l'appartenance à la famille. Voilà un verset, les versets du Romains 8 qui complètent ce Jean 16, verset 15. Et on en a un autre. Je prends un peu de temps pour citer ces textes parce qu'ils vont nous permettre, j'espère, de saisir l'énormité de la chose. Nous sommes en train de parler de quelqu'un comme vous et moi, dans la personne duquel réside Dieu. Ça va ? Alors, allons en Galates. Alors, j'ai mis des garde-pages pour m'y retrouver. Il m'est arrivé un jour, c'est pour détendre un peu l'atmosphère, je raconte une histoire, parce que je suis moi-même un peu tendu. Ma famille et moi étions dans le Jura en vacances et on avait décidé d'aller dans une église suisse. On était juste à la frontière, donc on rentre dans l'église, je prends une Bible, je n'avais pas de Bible, donc je prends une Bible qui était là, déposée sur la table, puis on s'installe. Et puis la liturge, ou la personne qui dirige le culte, la première partie, c'est une dame et elle cite plusieurs passages bibliques, donc elle les nomme et elle les cherche. Et puis moi, je prends ma Bible et je vois un petit garde-page. Alors, j'ouvre le garde-page, je tombe sur le texte le premier texte qu'elle indique. Oh, c'est pratique, ça. Super. Elle va commenter un deuxième texte, elle donne une référence pour que tout le monde puisse se chercher. Je prends ma Bible que j'avais pris à l'entrée, là. Deuxième garde-page, je tombe dessus. Oh, c'est super, c'est une Bible où les garde-pages ont été préparés pour ceux qui vont suivre le culte. Je dis, ça, c'est bien suisse. Et à un moment, je me dis, mais non, c'est pas ça. J'ai piqué la Bible de la personne qui allait diriger le culte. Aïe, 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 j'étais confus, terrible. Je me dis, mais comment elle s'en débrouille là, elle doit chercher. Tout ça pour dire que j'ai mes garde-pages là, et j'ai bien surveillé ma Bible pour que personne ne me la prenne. Troisième passage, après Jean 14, Romains 8, voici Galates chapitre 4. Alors c'est dans un contexte particulier où Paul est en train de se bagarrer avec la loi, le principe légal qui nous permet de rétablir la relation avec Dieu, en théorie, et puis l'esprit du Christ qui ramène la paix, chose que la loi n'a pas pu faire. Donc voilà, mais ça c'est pour le contexte, mais on ne va pas trop développer ça non plus. Mais voilà, je lis au chapitre 4, verset 4. « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils pour que nous recevions l'adoption filiale. » J'ai sauté une partie là, hein, parce que c'est en rapport avec la problématique de toute la lettre, mais je le lis quand même. « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et né sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption filiale. » Ah, c'est même pire. C'est pas pour que nous recevions un état d'esprit qui nous fasse sentir qu'on est enfant. Non. Pour que nous recevions l'adoption filiale. Vous vous souvenez, le paraclète, l'avocat, le défenseur, celui qui dit « Non, c'est moi qui établis l'esprit d'adoption, qui vous donne un statut, une chose céleste, indéboulonnable. » Pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tiens. De nouveau, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Deux, trois petites choses qui viennent compléter ce qu'on a dit jusqu'ici. Là, vous avez les trois personnes engagées dans ce ministère à notre service. Dieu le Père, il envoie dans nos cœurs qui ? L'esprit de son Fils. Vous avez vu comment c'est interchangeable presque. L'esprit de son Fils. Ce n'est pas la mentalité, la personnalité. Non, non, non. C'est l'Esprit Saint qui procède, qui a été envoyé par le Fils. Et cet esprit crie « Abba, Père ». Vous avez déjà crié « Abba, Père » ? Oh, c'est possible que dans des moments difficiles, on crie. Parce que le verbe employé là, c'est vraiment crier. C'est le même verbe qui est employé, par exemple, par le démoniaque de Gadara. Ça vous dit quelque chose ? C'était un monsieur qui était aux prises avec des esprits très violents, et il était loin dans la pampa, là, de l'autre côté de Tibériade, et il crie. Il crie, « Que viens-tu ?» Il crie. Si je crie, ça fait un peu désordre, mais voilà, c'est vraiment crier, quoi. Et c'est pas simplement dire, c'est pas « Papa », c'est « Papa !» Vous voyez la différence ? Enfin, je ne suis pas acteur, donc je ne le fais pas forcément comme il faut. Mais c'est ce que Paul dit. L'esprit crie à notre esprit. Et il nous témoigne. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que ça change ? Je vous pose la question, qu'est-ce que ça change ? On a parlé de transition, de disposition que Jésus prend pour solutionner cet esprit de crainte, de trouble, d'obscurité. Qu'est-ce que ça change dans vos vies quotidiennes ? J'ai bien aimé Pierre, il a dit, ouais, on va prier aussi pour notre incrédulité. Ça m'a rassuré. Des fois, je me sens seul dans mon incrédulité, mais je me sens dans mon incrédulité. Et je me dis, mais est-ce que j'ai quand même bien pris la mesure de ce qui s'est passé là ? Voilà que le croyant, petit que nous sommes, insignifiant, avec tout ce que nous connaissons de nous-mêmes, qui peut être bruyant des fois, mais pas toujours, voilà que en nous réside l'Esprit de Dieu. Quand vous pensez à des choses, est-ce que vous pensez, tiens, qu'est-ce que pense l'Esprit ? Il est là, il m'entend. C'est l'Esprit de son Fils, il est dans mon cœur. Comment je vis avec cette, qu'on pourrait appeler ça une cohabitation ? C'est plus qu'une cohabitation, c'est pas une colocation, c'est une intimité profonde. Comment est-ce que je vis ça ? Au jour le jour, très concrètement. Ah, quand je prends mon petit déjeuner, quand... je crois que c'est un psychiatre hein, qui dit le bouillonnement de nos pensées, il appelle ça mental FM. Ça vous dit peut-être quelque chose. Je crois que c'est Christophe André qui dit ça. Hein. Il dit mental FM, c'est la radio. C'est la radio, il y a des spots de pub, il y a des trucs, ça part dans tous les sens. Mais ça tourne dans la tête. Comment vivons-nous notre état d'esprit avec cette affirmation de Jésus, je viens à vous. Vous avez des pistes pour articuler ça? Parce que ce n'est pas une aspiration, hein. Ce n'est pas quelque chose qui nous est promis comme qui va à venir. C'est quelque chose de scellé, d'établi, aussi ferme que Dieu est ferme dans ses promesses, dans ses paroles. Il dit, je vous ai donné, mon Fils a accompli ce qu'il fallait pour que vous ayez l'Esprit. Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? J'avoue que j'ai séché sur cette question. J'ai peur que la réponse soit finalement ah, je vois pas grand chose. Je vois pas grand chose. Et peut-être qu'il y en a plus ce qu'on veut bien voir. Peut-être que l'esprit est vraiment au travail, qui fait son job d'aide, de conseiller, etc. Et puis qu'on ne le discerne pas toujours. C'est possible. Et puis qu'est-ce que ça change pour vous? Et on va faire la transition vers la série de prédications que Pierre a entamée, redoutable série. Moi, j'aurais été lui, j'aurais choisi autre chose que les uns les autres. C'est courageux et ça demande beaucoup, beaucoup d'esprit sans doute. Alors maintenant, dans votre relation les uns avec les autres, comment vous vivez le fait que votre interlocuteur, que la personne devant vous ou qui vit avec vous, a l'esprit? Ah, vous partagez le même esprit. Quand vous vous parlez l'un l'autre, qu'est-ce que ça change? Dans quelle mesure la relation fraternelle avec nos proches, hein, le conjoint, les enfants, les parents, les grands-parents, mais aussi les frères et sœurs dans l'Église, comment est-ce que cela a de l'impact sur la qualité de notre relationnel? Je suis sûr que là, par contre, la réponse, elle n'est pas aussi indigente que ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure. Vous avez manifesté dans vos témoignages combien vous avez été soutenu, et il a même été dit que c'est à cet amour-là que le monde verra que vous êtes mes disciples. Donc, comment développer, à partir de cette habitation du Saint-Esprit dans nos cœurs? Eh bien, quand je parle à quelqu'un, quelque part, il y a cette aide mutuelle, ce paraclète, qui est là également. Comment est-ce que cela s'articule à travers nos relations fraternelles? La piste, toujours dans Jean 15, ou toujours dans Jean, j'allais dire, dans les derniers chapitres, hein, c'est là que c'est très dense. Dans Jean 15, nous avons ces quelques versets. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé. On peut imaginer l'intimité de Dieu le Père avec le Fils Jésus-Christ, à notre niveau. Mais voilà que Jésus continue. Moi aussi je vous ai aimé du même amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et c'est quoi son commandement? Verset 17. Ce que je vous commande, c'est facile à retenir, c'est pas long, il n'y en a pas 10. Il y a juste un. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Voilà le travail de l'Esprit dans nos cœurs. On va avoir un moment de méditation et après, je vous parle du chant qui va venir. la présence de Dieu au milieu de nous, la présence de Dieu en nous, c'est l'Église qui chemine, ce sont les croyants qui cheminent avec toutes nos limites, mais avec cette tonitruante affirmation de Jésus, je ne vous ai pas laissé orphelin, je viens à vous. On va chanter, j'ai oublié le numéro du Jeunesse en mission, mais il va s'afficher tout de suite.